monde de Tintin et Milou. Une chronique animée par Jean-Yves Delors et Bruno Hiray.
Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Bruno.
Alors nous vous revoici partis sur la grande histoire de Tintin. Là nous sommes dans les années 1940-1960. Nous arrivons à la fin des années 30, la guerre approche, l'Allemagne nazie, de plus en plus menaçante, vient d'annexer l'Autriche. Au cœur de cette triste actualité, Hergé publie, toujours page par page en feuilleton, le sceptre de Tokar. Un mois plus tard, la guerre éclate. Cette aventure de sceptre vise à éliminer le roi de Sildavip, Mouscard XII, en le privant de l'insigne de son trône. Le complot a été monté depuis un pays voisin, la Bordurie. La Sylvanie est un pays neutre comme la Belgique. La Bordurie ressemble fort à l'Allemagne qui veut annexer tous les pays voisins. Parmi les responsables bordures, il y a le colonel Boris, traître à sa patrie. Son uniforme noir et sa petite moustache rappellent l'uniforme des dignitaires nazis. Le chef du parti de la garde d'acier s'appelle Müstler, formé des noms de Mussolini et Hitler. Heureusement, Tintin va déjouer le coup d'État organisé par la Bordurie. Hergé non seulement s'est saisi de l'actualité, mais l'a devancé de façon prémonitoire. Mais les enfants, ses premiers lecteurs, n'y voient qu'une aventure comme les autres.
Un an plus tard, en 1940, alors que l'Allemagne a envahi la Belgique, le journal qui publiait les aventures de Tintin au pays de l'or noir disparaît. L'aventure est interrompue. Hergé va continuer à dessiner pour un journal contrôlé par l'occupant, Le Soir, mais 20 fois plus important en tirage que le petit 20e. Les aventures de Tintin perdent tout caractère politique pour filer du côté du Maroc. C'est le crabe aux pinces d'or, une histoire de trafic d'opium, thème qui avait été abordé en Asie. C'est dans cette aventure qu'apparaît notre capitaine Haddock. Hergé a renouvelé son talent, même si l'aventure est un peu plus courte. Plusieurs pages sont alors dessinées en grand format. C'est aussi l'apparition de la quadrichromie, la couleur. Dans l'album suivant, L'étoile mystérieuse, une histoire d'expédition à la recherche d'un mystérieux aérolithe, Hergé multiplie les gages à l'occupant allemand. Le bateau de Tintin l'emporte sur un bateau américain commandé par un banquier new-yorkais au nom et au faciès juif. D'où les attaques postérieures vis-à-vis d'Hergé qui sera taxé d'antisémitisme.
Pour ne pas se mettre en danger pour échapper à la censure allemande, Hergé va partir dans un tout autre registre, la chasse au trésor. C'est le sujet du secret de la licorne et du trésor du Rackham le Rouge. Et cela donne lieu à l'apparition de Tournesol, professeur et scientifique. L'on découvre aussi le château de Moulinsart que le professeur achète pour Haddock à la fin de l'histoire. La guerre est finie. Hergé va se plonger à nouveau dans l'histoire plus ancienne, les Incas. 30 ans auparavant, un archéologue américain perdu dans les Andes a fait une formidable découverte, le Machu Picchu, cité inca extraordinaire. Hergé imagine une malédiction dont seraient victimes des scientifiques. Et voilà nos deux héros partis pour l'Amérique du Sud. Puis en 1950, paraît une autre histoire, commencée 11 ans plus tôt, Tintin au pays de l'or noir. Hergé a dû faire des modifications car sa première édition était ouvertement anti-sioniste. On est évidemment en pleine période de la découverte de gisements de pétrole au Moyen-Orient.
Et puis arrivent les années 50, c'est la grande date. Deux albums vont paraître avec une extraordinaire précision scientifique. Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Ils sont bien ceux-là, hein. Ils sont remarquables. Hein.
Ils sont superbes.
La Lune a sauvé Tournesol chez les Incas et Tournesol veut la remercier. Hergé lit des livres scientifiques, correspond avec des scientifiques. Ce récit de la conquête de la Lune sera si parfaitement documenté et si vraisemblable que l'alunissage du 21 juillet 1969 ne paraîtra pas exceptionnel à de nombreux lecteurs. Même des hypothèses comme la présence d'eau sur la Lune, vous vous rappelez que Tintin glisse sur de la glace,
ah, c'est vrai.
Longtemps contestée par les scientifiques, sera admise, coïncidence ou prémonition. À suivre,
Mille sabords.